France Inter, Marion Lourd, Ali Badou, le 6-9.
7h46, le débat éco avec Thomas Porcher et Dominique Seux, comme tous les vendredis. Bonjour messieurs.
Bonjour à tous.
Ravi de vous retrouver. Nous allons évoquer un sujet qui sent le week-end, mais qui est aussi économique. Et ce sujet, c'est le bonheur. Ça peut surprendre, mais le bonheur en économie, c'est une question ancienne et on va le voir. Elle remonte au moins au 18e siècle. Le classement annuel des pays heureux était publié avant-hier. C'est une étude, c'est un rapport qui est publié sous l'égide de l'ONU, et il montre que la France se place seulement à la 27e place sur 143. Et c'est même un recul par rapport à l'enquête précédente. Le résultat est obtenu à partir de sondages de différents indicateurs. On va regarder ça dans le détail, mais d'abord un commentaire général. Thomas Porcher.
C'est intéressant, moi, je trouve, de faire des études sur le bonheur, que les économistes s'intéressent au bonheur, hein, parce que pendant très longtemps, on a dit que l'économie était la science lugubre. Donc c'est très bien, et puis ça permet de faire des comparaisons. Après, quand on regarde l'étude vraiment en détail, il y a pour moi des gros défauts de la science économique aujourd'hui, c'est-à-dire c'est des très grandes études, très sophistiquées, où on a beaucoup de données qu'on traite, et en général, ce type d'études accouche soit d'une souris, soit donne des résultats souvent un peu biaisés. Je veux dire, quand vous regardez les questions qui sont posées, c'est des questions, par exemple, as-tu souri hier ? Alors, c'est très intéressant, mais il y a des biais culturels qui ne sont pas pris en compte. Et puis, il y a des échantillons qui sont faits. Alors, un échantillon, ça a marché pour l'Islande, hein, qui est classé deuxième ou troisième. Mais pour l'Inde, faire un échantillon représentatif, c'est une société plus complexe. Donc, c'est plus compliqué. Donc, oui, c'est une étude intéressante. Mais au final, il y a pas mal de défauts, moi, je pense.
Dominique.
La question principale qui a été posée dans chaque pays, c'est évaluer votre satisfaction dans la vie sur une échelle de 0 à 10. Et puis, il y a des indicateurs, j'allais dire, plus dur de revenus, de santé, de liberté. Moi, là, le point qui m'a le plus frappé avant même de parler de la France, c'est qu'on voit deux choses importantes. La première, c'est que la remontée spectaculaire depuis 20 ans des pays de l'Europe de l'Est, de l'ex-Europe de l'Est. Et on voit bien quand des pays, ils ont été intégrés dans l'Europe, ils ont progressé, leur niveau de vie a progressé, ils se sont comparés à l'Europe de l'Ouest et leur satisfaction dans la vie a progressé. Ça, c'est une évolution spectaculaire. Et la deuxième évolution qui me frappe, c'est quand on prend les 10, voire 20 pays où on est, soi-disant, le plus heureux, ce sont des petits pays. Les 10 premiers, c'est des tout petits pays. Alors, tout pays, c'est pas du tout méprisant de dire ça, mais
peu peuplé. Mais elle est tout en
vous
haut
avez complètement
classement.
Raison de le dire. Donc, c'est vous avez le Danemark, alors la Finlande numéro 1 mondial, le Danemark, l'Islande, la Suède, Israël, le premier pays de taille plus importante qui arrive, il est 20e, il est le Royaume-Uni. Et la question qu'on se pose évidemment, c'est est-ce que c'est parce qu'il y a plus de confiance entre les individus dans ce pays ? Qu'est-ce qu'il y a des relations plus proches ? Facile de dire ça. Voilà, il y a quelque chose. Pour la France, juste un clin d'œil quand même. Tout le monde, depuis 24 heures, a commencé cette étude en disant la France a dégradé entre l'année dernière et cette année, puisqu'elle est passée de la 21e place à la 27e.
Oui.
Et ça montre notre autodénigrement permanent, puisque en 2016, nous étions 37e. Donc en fait, on est mieux qu'en 2016. Ouais. Donc il faudrait savoir.
C'est pour ça que c'est intéressant. En fait, si le résultat amène au fait que vous avez dans les 10 premiers pays, 8 pays sur 10 qui sont des petits pays, est-ce que c'est parce qu'on est plus heureux dans les petits pays ou est-ce que c'est la méthodologie de l'étude qui est complètement biaisée ? C'est important parce que par exemple, l'Inde est très mal classée. C'est un pays émergent, l'Inde. Ils sont très fâchés d'être derrière l'Ukraine. Hier, ils sont montés au créneau, des économistes très sérieux indiens ont dit comment ça se fait que nous sommes derrière un pays en guerre comme l'Ukraine. Et eux, ils ont calculé leur index de bonheur selon une banque indienne et ils arrivent plutôt qu'à 46e. Donc ils gagnent quasiment une 80 places. Donc vous voyez, c'est très intéressant. Et ils se disent comment ça se fait que ce sont quasiment que des pays riches. Donc ils se disent c'est encore un outil de l'ONU avec des critères occidentaux pour nous classer derrière.
Alors, vous avez prononcé un mot important, le mot riche. On va parler de la richesse des individus et des nations.
Laissez-moi finir sur quelque chose d'assez marrant. La Finlande, c'est le numéro 1. Mais la Finlande, c'est aussi un des taux de suicide les plus élevés au monde. La Lituanie...
Non, c'est plus le cas. C'était le cas dans les années 90.
Oui,
ils ont pris pas mal de mesures depuis une vingtaine d'années, et notamment la prise en charge...
Je suis d'accord avec vous, mais il reste devant la France, par exemple. Alors, le taux de suicide, c'est un critère important, mais il n'est pas pris en compte dans l'étude.
Dominique.
Et effectivement, Thomas a dit le mot important aussi. Est-ce que c'est lié à la richesse ?
Oui.
Est-ce que c'est lié au développement ?
Richesse individuelle et richesse collective.
Dans les deux cas, c'est vrai. dans les deux cas, oui, les pays où on est le plus heureux, où il y a le plus de bonheur ressenti, ce sont les pays les plus développés. Le pays émergent, le premier pays émergent qui arrive dans le classement, c'est le Mexique à la 25e place. Mmh. Avant, c'est uniquement des pays développés, même s'il y a le Costa Rica, mais le Costa Rica est dans une situation un peu particulière. Au niveau individuel, il y a une étude d'un prix Nobel il y a une quinzaine d'années, Angus Deaton, et d'un psychologue qui s'appelle Kahneman, qui avait fait un lien avec une très grosse étude en disant le bien-être émotionnel s'accroît avec le revenu. Alors, dans une première version de son étude, il avait dit ça, c'est vrai jusqu'à 75 000 dollars par an. Et puis, ils ont retrait en disant au-delà de 75 000 dollars par an, le bonheur individuel ne s'accroît plus. Et puis, une autre étude a été faite après, ils ont dit si au-delà de 75 000 dollars, le bonheur continue de progresser. Mais évidemment, le bonheur n'est pas que l'argent, ne fait pas tout le bonheur. Un indicateur de l'INSEE très intéressant, et je finis par là, pardon, parce que l'INSEE...
Ça, c'est une autre étude.
L'INSEE pose la même question chaque année, l'indice global de la satisfaction dans la vie. Oui. La moyenne en France, c'est 7,1, donc on est au-dessus de la moyenne. Mais le point intéressant, donc c'est drôle, parce que par rapport au déclinisme et permanent, au pessimisme, en fait, individuellement, les gens, vous connaissez la formule, bonheur privé, malheur public.
Malheur mais, collectif.
Ce qui est intéressant dans l'étude de l'INSEE, qui ne figure pas dans celle de l'ONU, c'est est-ce que les plus riches et les moins riches sont plus ou moins heureux? Oui, si vous êtes dans le quart le moins riche de la population, vous êtes moins heureux, mais l'écart n'est pas considérable. La moyenne, je l'ai dit, est à 7,1, le quart le moins riche est à 6,5, le quart le plus riche est à 7,6. Il y a un écart, mais heureusement, le bonheur, ça n'est pas que l'argent.
Thomas Porcher.
Il faut regarder les variables clés de l'étude. Les variables clés de l'étude, c'est le revenu. Donc là, Dominique l'a dit, il l'a très bien expliqué. C'est l'espérance de vie.
Oui.
C'est le soutien social. C'est-à-dire, est-ce que vous donnez de l'argent? Est-ce que vous avez donné hier de l'argent à quelqu'un qui était plus pauvre que vous? La liberté de faire des choix, la générosité, l'absence de corruption. Mais il y a plein de critères qui sont pas pris en compte. Par exemple, la mobilité sociale, c'est pas pris en compte. Et c'est important, je pense, aussi dans le bonheur de penser qu'on puisse avoir un emploi plus élevé que ses parents. La sécurité de l'emploi, les inégalités. Il y a plein de critères l'environnement. Il y a plein de critères qui ne sont pas pris en compte et qui sont importants à prendre en compte.
Mais c'est une vieille question, je le disais, puisque Adam Smith, l'un des pères de l'économie au XVIIIe siècle, disait que le bonheur d'un individu est soumis à la perception qu'il a de sa situation. Et ça, c'est une vraie question qui se pose en France. Vous, ce que vous critiquez, Thomas Porcher...
C'est la formule... C'est la formule. Est-ce que être heureux, c'est simplement gagner 10 dollars de plus que son beau-frère? C'est la question de la jalousie et du rapport aux autres. Il y a dans le dernier livre, et on peut en faire un peu plus la publicité, Daniel Cohen, son livre posthume qui a été publié il y a quelques semaines, excellemment introduit par Esther Duflo il y a quelques semaines, il met en avant et il philosophe, et c'est le mot, et il économiste sur le paradoxe d'Easterlin, qui, pourquoi alors que les sociétés occidentales ont considérablement progressé dans leur niveau de vie collectif, ça c'est indiscutable, pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus heureux de décennie en décennie? Et en fait, répond-il, on s'habitue à tout. Et oublie extrêmement vite. On ne peut plus se passer de biens dont on ignorait même l'existence 10 ans avant.
D'accord.
Thomas Porcher.
Je suis d'accord. Bon, je vais un peu critiquer Daniel Cohen. C'est-à-dire que c'est vrai ce qu'il dit, mais aussi ce que l'on voit ces 10 dernières années, c'est que tout s'effondre, en fait. Tout s'effondre. C'est-à-dire qu'on vous dit quoi? Alors, il faut
vous
faire...
Vous êtes deux collapsologues.
Non, mais il faut faire 2 réformes du marché du travail parce qu'on est trop protégé. Donc, il faut moins de protection. Il faut moins d'argent pour les services publics. Il faut faire des économies sur les collectivités locales. Il faut faire des économies sur l'assurance chômage, il faut faire des économies sur les retraites. Donc quelles sont les perspectives? Si vous arrive quelque chose, il y a des économies sur l'assurance maladie. Si vous êtes au chômage, il y a des économies dessus. Plus tard, il y a des économies sur les retraites. Donc c'est très difficile dans ce contexte d'associer le bonheur à l'économie, puisque l'économie vient sonner toujours des restrictions.
Mais quelle économie? Quel système économique? Ce qui est étonnant, justement, Dominique, alors répondez et ensuite je vous poserai une question d'ordre plus général.
Non, mais je lis exactement dans le même sens, dans un sens inverse. C'est-à-dire que depuis une trentaine d'années, les dépenses publiques, et on revient sur des sujets, pardon pour les auditeurs, extrêmement balisés et j'allais dire presque banaux, c'est que les dépenses publiques augmentent continuellement en France, plus 300 milliards d'euros depuis 2017, et manifestement, ça ne donne pas le bonheur et la félicité sur la Terre.
Vous n'avez pas cité Karl Marx, Thomas Porcher, le système capitaliste, le mot même de capitalisme, c'est pour vous la négation du bonheur, c'est un système qui produit des inégalités, de l'aliénation et une forme de misère pour ceux qui n'ont pas de propriété, à savoir les prolétaires.
Non, il est vrai que Marx, contrairement à Smith, qui nous disait...
Ça a rangé au musée des concepts ?
Non, parce que, Marx avait très bien compris une chose, c'était que la plus-value se faisait sur le dos de l'exploitation des travailleurs et donc des salariés aujourd'hui, notamment par le surtravail. Et là, il avait raison de penser ça, parce que dans l'économie présentée par Smith, on va le faire très rapidement, il y avait cette idée en fait que par des mécanismes type la division du travail, on allait créer du profit et qu'in fine, l'ouvrier anglais le plus pauvre allait être mieux nanti qu'un prince indien. Mais derrière, il y avait de l'exploitation. Et donc, il y avait finalement un rapport de classe qui avait été mis en avant par Marx. Après, je voudrais revenir un peu sur l'étude pour vous dire ô combien on peut un peu critiquer les résultats. Quand vous regardez chez les jeunes, la France recule, elle est 47e. D'accord ? Alors c'est très grave, hein. Mais vous regardez, le premier pays, c'est la Lituanie.
Oui.
Le troisième, c'est la Serbie. Alors, il y a ce qu'a dit effectivement.
Et l'Allemagne est au 46e, voilà. Alors, place pour
les Lituaniens de moins de 30 ans.
Ce que va dire, ce qu'a dit Dominique, marche. C'est que la Lituanie, effectivement, il y a un phénomène de rattrapage avec l'Ouest. Mais en même temps, pareil, quand on prend plein d'autres critères, vous savez que le premier pays européen où le taux de suicide est le plus élevé, c'est la Lituanie. Alors, il faut dire quand même les choses. Alors, est-ce qu'on est plus heureux avec un taux de suicide plus élevé ? C'est antinomique. Et donc, on voit très bien que dans cette étude, il y a des données qui ont été prises, mais il n'y a pas l'ensemble des choses qui permettent d'avoir une vision globale.
Sur les jeunes, l'indicateur d'INSEE que j'évoquais tout à l'heure dit que les jeunes sont plus heureux en France que les plus âgés. Bon, donc on va. Mais ce qui est très frappant, évidemment, ce qui est très frappant dans l'étude et dans le climat général, c'est vrai que quels sont les sujets dont on parle le plus en France ? Les retraites ? La santé, on ne peut pas dire que ça concerne dans les deux cas beaucoup les jeunes, en tout cas pour la majorité d'entre eux. On dit l'école se dégrade, les prix d'immobilier sont inaccessibles.
Oui.
Et donc on voit, et le climat évidemment. Donc ça veut dire que sur les cinq thématiques que je viens d'évoquer,
qui ne sont pas dans l'étude,
qui ne sont, le sont peut-être en résultat. Sur ces cinq thématiques-là, on voit bien que les jeunes ne sont pas privilégiés, n'ont pas de raison de se satisfaire. Et donc il y a, oui, une vraie question et un vrai, j'allais dire, c'est très douloureux pour ceux qui sont plus âgés comme moi de se dire, eh ben, pour ceux qui ont 30 ans aujourd'hui, au moins 30 ans aujourd'hui, on ne leur offre pas ces débats publics et ce destin et cette réalité qui leur convient.
Thomas Porcher.
Moi, quand je regarde l'économie ces 15 dernières années, d'un point de vue économique, à part peut-être le pass culture, à part le CICE et les baisses d'impôts pour les plus riches et pour les grandes entreprises, je vois pas où sont les bonnes nouvelles qu'on puisse annoncer et qui puissent faire plaisir.
C'est que le taux de chômage des jeunes a beaucoup baissé depuis 10 ans.
Oui, bien sûr. Bah, il a beaucoup baissé parce qu'on a baissé les durées de prestations et on a rendu plus difficile d'avoir le statut de chômeur.
Excusez-moi, c'est
un mirage statistique, c'est un trucage de la statistique. Si.
Mais la question, est-ce que c'est...
Vous dites que l'apprentissage est un mirage statistique ?
Non. Ce que je dis, c'est que vous savez très bien que le taux de chômage a baissé juste parce qu'on a changé les modalités de l'assurance chômage. Et c'est pas avec 0,8% de croissance que le chômage a baissé. Et vous le savez très bien, Dominique.
Est-ce que la question, c'est celle du bonheur en économie ou est-ce que c'est comme c'est écrit dans la déclaration d'indépendance américaine, la poursuite du bonheur, la recherche du bonheur qui doit être garantie par l'ensemble d'un système politique et économique.
Oui, moi je pense plutôt je rejoindrai ce que vous avez dit à la fin, parce que c'est vrai que le bonheur d'un point de vue économique ça reste une mesure qui est parfaitement abstraite. Alors les économistes, ils ont la prétention de vouloir tout mesurer et de trouver toujours des solutions de marché pour y remédier, mais je pense qu'on reste sur des chiffres qui sont parfaitement critiquables.
Dominique, le mot de la fin.
Non, mais c'est un paysage global qui est intéressant. Le bonheur est quelque chose d'évidemment très relatif. Daniel Cohen, dans son bouquin, et en 15 secondes, raconte l'expérience très intéressante du roi du Bhoutan, puisqu'on parle toujours du bonheur intérieur brut. Il dit, en 1998, le roi du Bhoutan dit « Il faut que le bonheur soit un objectif constitutionnel. » Un an après, il autorise la télévision dans son pays, et à ce moment-là, les gens quittent le bonheur parce qu'ils se mettent à regarder les scènes de violence à la télévision.
Et c'était en 2000.
Donc, voilà, ce débat que nous venons d'avoir pendant 15 minutes, c'est à la fois intéressant et relatif.
Ce sera la morale de cette histoire. Merci Thomas Porcher, merci Dominique Seux.
Et merci à vous d'écouter France Inter, il est 8h.